Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, notre invité est aujourd'hui Jean-Marie Rouard, dont je rappelle qu'il a été reçu à l'Académie française le 12 novembre 1998. Jean-Marie Rouard qui vient de publier chez Gallimard un roman intitulé « La guerre amoureuse » qui raconte la lente dérive d'un homme entraîné dans une aventure sadomasochiste par une belle étudiante aux allures d'ingénu. C'est un livre sombre, profond, aux accents parfois raciniens. Jean-Marie Rouard, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Bonjour.
Alors, votre belle étudiante fait atrocement souffrir le narrateur de votre roman. Il subit, il devient de plus en plus lâche, tout en étant au moins conscient d'une chose, c'est de sa lâcheté. Mais ce qu'il y a de vraiment étonnant, c'est qu'il éprouve parfois une véritable ivresse dans l'abaissement.
Ça fait partie des poisons de l'amour. Il y a, dans ces moments où l'on souffre, où l'on tombe dans les abîmes du cœur, eh bien, il y a des moments de désespoir et il y a des moments où une petite lumière s'allume et on se dit qu'on vit plus intensément que les autres, qu'on est une sorte d'élu, finalement, et qu'on partage ce que la poétesse Anna de Noailles appelait l'honneur de souffrir. Eh bien, cet honneur de souffrir, je crois que ce privilège de la sensibilité, ce privilège d'être non seulement un amoureux, mais d'être un passionné, donne une sorte d'ivresse, d'autant plus que l'amour est un éclairage extraordinaire sur tout ce que nous sommes. C'est peut-être une illumination de beaucoup de nos abîmes, bien sûr, de nos abîmes de la sensualité, mais pas seulement. Je crois que la passion révèle à la fois notre amour de la vie et notre désespoir devant la vie. Et c'est pourquoi mon héros, le narrateur, finalement, s'est inventé une passion. Parce que c'est ça le problème, c'est que cette femme, est-elle réelle, est-elle imaginaire? Bien sûr, c'est un personnage réel, avec une chair très appétissante,
oui.
Mais,
qu'on puisse dire.
Mais il l'a inventé. C'est ça qui est passionnant, je trouve, dans l'amour, c'est ce phénomène de création. Il n'y a pas seulement le romancier.
C'est une auberge espagnole, au fond.
Bien sûr, c'est une auberge espagnole, c'est-à-dire que, même si ce n'est pas très joli pour une jeune femme, de la traiter d'auberge espagnole, mais je crois que l'écrivain invente un personnage, à partir d'éléments réels, bien entendu, mais comme l'amoureux invente un personnage, à partir d'éléments réels.
Alors vous citez une phrase tout à fait étonnante dans votre livre, vous dites « Le masochiste s'avilit pour élargir la distance entre lui et son idéal ». C'est un rapport étrange à l'idéal, ça.
Oui, alors cette question du masochisme qui est au cœur de ce livre, c'est-à-dire de ce désir de souffrir qu'on retrouve chez Dostoïevski, on retrouve chez tous les amoureux, on retrouve chez Proust. Il y a le besoin de s'humilier, le besoin d'être maltraité, je crois que ça fait partie d'une forme d'érotisme. Je crois que c'est le sel et le poivre de l'érotisme, cette humiliation qui creuse vraiment dans les abîmes profonds de la psychanalyse.
Mmh. Mais cette distance à l'idéal, enfin, c'est masochiste, sa vie.
Mais je crois que l'idéal...
Pour élargir la distance entre lui et son idéal.
Alors, oui, parce que...
C'est très complexe.
L'idéal fait peur, l'idéal est... Ce masochisme, être frappé, disons, voir le personnage adulé qui abîme cette image, je crois que c'est dans ce décalage entre l'idéal et cette personne qui devient un peu bestiale, et cette bestialité, cette forme de bestialité, qui est cette tension qui est une forme de l'érotisme.
Alors, on voit encore dans ce livre à quel point vous êtes fasciné par la beauté des femmes, surtout lorsque cette beauté donne l'impression d'être associée à la pureté et à l'innocence, même s'il ne s'agit que d'apparence. Au fond, derrière tout ça, il reste quand même cette grande image de Gary, la mère qui est belle, qui est protectrice, et cette phrase terrible, « Avec l'amour d'une mère, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais ». C'est dans votre vision de la relation homme-femme, c'est...
Ça, je crois que c'est Freud qui a insisté sur ce point de l'importance de la mère dans la vie amoureuse. Mais je crois que c'est une constatation qu'on peut faire. C'est évident que la mère est la première, la construction de la relation avec la mère... est déterminante dans la construction amoureuse. C'est que soit en négatif ou en positif, parce qu'il y a des mères très tendres avec leurs enfants qui amènent leurs enfants à justement avoir des relations très compliquées, au contraire, des mères absentes. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, comme disait l'aumônier du Vercors à Malraux, il n'y a pas de grande personne, et que nous reconstituons, nous reconstruisons sur des bases enfantines, sur des traumatismes enfantins, notre vie amoureuse. C'est sûr que c'est déterminant, mais s'y ajoute tellement de choses, s'y ajoute toute la culture, s'y ajoute toutes les lectures, je crois que on tombe amoureux tel qu'on est. Un écrivain tombe amoureux avec le souvenir d'Anna Karénine, de Madame de Mortsauf, de Balzac, avec beaucoup d'autres héroïnes qu'il a aimées. Et finalement, je crois qu'il essaie de rejoindre. Il essaie de rejoindre ses femmes idéales, ses histoires idéales. Je crois qu'un amoureux est épris de romanesque.
Alors si la perversité peut prendre ainsi, que dans votre livre, les apparences de l'innocence et de la pureté, est-ce que ça veut dire qu'en nous et dans l'univers, au fond, il y a des forces diaboliques qui agissent?
Je crois que l'amour est le point de rencontre de tellement d'éléments variés. Le cœur est d'un métal tellement complexe où entrent vraiment des éléments très divers, des choses très pures, des choses impures. Et c'est ce qui fait sa richesse. C'est ce qui fait que, finalement, tout au long de l'histoire du monde, on a posé la question de l'amour sans la résoudre. Parce que, au fond, qu'est-ce que c'est que le roman ? Depuis Homère, c'est une longue, longue, longue histoire d'amour que chaque écrivain pose, chacun son tour, d'une manière différente et en même temps toujours un peu de la même façon, pour essayer de résoudre cette énigme. Et chaque fois, il apporte un peu de lui-même. Dans ce fond commun d'histoires d'amour, qui ont des ressemblances, des différences, mais à chaque fois, chaque génération recommence, comme vraiment le rocher de Sisyphe qu'on essaie de repousser et qui revient toujours. Et c'est ça qui m'intéressait, au fond. Ce qui m'intéressait dans ce livre, c'était de me centrer, de faire une anatomie, une radiographie d'une histoire d'amour, mais forcément différente, puisque je suis différent des autres. Je n'ai pas vécu les mêmes choses que Fromentin, que André Monroy dans Climat, que Proust dans La Prisonnière. Alors forcément, j'ajoute une part, je ne veux pas parler du talent devant ces exemples écrasants, mais j'ajoute une part qui est une part personnelle.
Voilà. De votre mystère, quoi.
Voilà, enfin, mon mystère, je crois, m'a... Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on veut écrire ? Pourquoi est-ce qu'on veut écrire notamment des romans ? C'est qu'on veut s'exprimer, on veut exprimer sa vision de l'amour. Et une vision qui n'annule pas celle des autres, c'est chacun, chaque fois, quelque chose de différent. Et vous pouvez voir, enfin, la variété des romans d'amour au XXe siècle, entre Monroy, Mauriac, Morand, chacun, Drieu-la-Rochelle, chacun a une vision personnelle de l'amour et l'exprime avec un talent différent.
Alors, votre héroïne, si j'ose dire, a au moins trois obsessions, plaire, jouir, puis surtout se faire épouser. Alors, elle emploie tous les moyens, mais malgré tout, on a l'impression que vous avez pour elle une certaine tendresse et vous semblez l'expliquer par ce qu'est l'évolution de notre société, ce que vous appelez l'échec de la modernité. Au fond, c'est une victime, cette femme qui est le bourreau du narrateur, elle est en même temps une victime.
Elle est victime de sa liberté. Je crois que les jeunes femmes d'aujourd'hui sont victimes de leur liberté, même si ce personnage de jeune fille, un peu perverse, mais j'y ai mis beaucoup de moi-même. Bon, j'y ai mis beaucoup de moi-même parce que, au fond, j'ai mis toute la compréhension et toute la tendresse que j'ai pour les femmes qui, tout au long de l'histoire, ont été les victimes des hommes. Oui, j'aime beaucoup la phrase de Vigny qui dit « Après avoir étudié la condition des femmes dans tous les temps et dans tous les pays, je suis arrivé à la conclusion qu'au lieu de leur dire bonjour, on devrait leur dire pardon. » Eh bien, c'est vrai, je trouve que les hommes ont beaucoup à se faire pardonner les femmes. Et même quand elles font souffrir les hommes, je peux les comprendre. Et là, elle les fait souffrir, elle fait souffrir un homme. Elle veut se marier et en même temps, elle voudrait vivre une vie pleine, romanesque, aventureuse. C'est aussi bien du côté des hommes que des femmes. On veut à la fois la stabilité, la frénésie, la passion. On veut à la fois la durée et les instants exceptionnels. Donc, de ce point de vue-là, je peux la comprendre. Mais c'est vrai que sa situation, aujourd'hui, c'est la situation des femmes libres. Autrefois, à 22 ans, une jeune femme était mariée par sa famille. Voilà, les choses étaient réglées. Elle s'insérait. Alors, bien sûr, il y avait la question de l'adultère. Mais tout ça était inséré dans un cadre. Maintenant, nous sommes dans un monde hors cadre, où la liberté est en même temps un jeu cruel. Et les gens en jouissent de cette liberté, voudraient profiter de tous ces avantages, mais souffrent de ces inconvénients.
Alors cette jeune femme meurt dans des conditions assez atroces. Et on a l'impression que la mort, finalement, transcende tout, en l'occurrence dans cette histoire, et donne une place primordiale au destin, un destin qui semble s'acharner à vouloir détourner les êtres du bien et du bonheur. Et on a l'impression, c'est presque l'ananke grec quand on vous lit, enfin, ou le fatum latin, on a l'impression que les êtres sont écrasés par... Ils ne peuvent lire. Cette liaison, par exemple, n'est vécue librement par le narrateur qu'à partir de la mort de cette jeune femme.
Oui, parce
c'est
qu'à
même,
partir
c'est
de,
très lourd, ça.
À partir de ce dénouement, il n'est, un peu avant, il n'est plus amoureux. Donc à ce moment-là, son regard se libère et il voit les choses d'une manière très différente, d'une manière objective. Mais vous parliez de la fatalité grecque, c'est sûr. Il y a deux domaines où cette fatalité joue un très grand rôle. C'est en politique et c'est en amour.
Vous faites un lien d'ailleurs entre les deux. Pour vous, c'est la même histoire, la politique et l'amour, c'est le pouvoir.
C'est le pouvoir, mais enfin, dans le domaine du pouvoir sur les êtres, dans le domaine amoureux, on peut tous l'éprouver. Rien n'est plus étonnant que cette rencontre entre le hasard et la nécessité, entre le fait qu'on rencontre par hasard une jeune fille dans l'autobus, dans la rue, dans le métro, qu'elle vous sourit, on lui sourit, et puis subitement, il va y avoir, à la suite de ce sourire, toute une histoire, toute la construction d'une histoire, peut-être même des enfants, peut-être un divorce, peut-être même un suicide. C'est-à-dire que cet élément fortuit, cette rencontre fortuite, subitement va se dégager une nécessité. Et cette personne va devenir indispensable alors qu'on vivait très très bien sans elle. Donc subitement est introduit quelque chose qui a un rapport avec la destinée. Voilà, et c'est ce qui me passionne, moi, dans l'amour, notamment parce que je trouve que l'amour, c'est tout. C'est-à-dire que l'amour englobe tout, notre vision du monde, notre sens de la vie, le spirituel, le sensuel, et en même temps, cet élément qui est une énigme de toutes les énigmes, c'est la destinée. Pourquoi est-ce que quelqu'un va rencontrer une jeune femme merveilleuse et qui va l'entraîner dans la mort, qui va l'entraîner au suicide, qui va l'entraîner ou l'entraîner vers le bonheur, à avoir 5 enfants, à être parfaitement heureux. Je ne sais pas, c'est une énigme. Énigme, pourquoi est-ce qu'on rencontre quelqu'un qui vous convient ou quelqu'un qui, pour des raisons mystérieuses, paraissait vous convenir et ne vous conviendra plus. Là, c'est un mystère et personne ne peut le résoudre.
Alors là, dans ce livre, on retourne un thème qui est quand même fréquent chez vous. Vous semblez dire qu'il n'y a pratiquement jamais d'amour homme-femme durablement heureux. Et vous insistez, encore une fois, sur l'aspect physique des choses. Alors là, vous rejoignez un club dans lequel on pourrait faire entrer Tolstoï, Pascal, et puis maintenant jusqu'à Houellebecq. La tristesse de l'amour physique, enfin, vous semblez le dire, et vous le dites d'une façon d'ailleurs très très violente, je vous cite. Vous parlez de cette lente désérotisation que cherchent au fond tous les couples, afin d'être débarrassé de l'irritante question du sexe, facteur d'insatisfaction, d'angoisse, de jalousie, de nervosité inutile et vlan.
Ça, c'est l'amour dans un mariage, la lassitude du mariage.
Oui, c'est ce que vous dites d'ailleurs.
C'est un peu particulier.
Vous dites, dans le Parce mariage, que... l'expression la plus patente.
Voilà.
Donc le mariage serait fait pour...
Mais je pense qu'on fait beaucoup d'efforts pour échapper justement à cette érosion de l'amour physique. Mais je crois qu'il est inscrit dans l'amour lui-même... Ça fin, voilà. Et c'est pour ça que c'est quelque chose de magnifique. Et vous savez, Chateaubriand disait « L'amour, il est toujours trompé, fugitif ou coupable. » Et quelquefois, il est coupable après avoir été fugitif et trompé. Donc, on n'en sort pas. C'est quelque chose de merveilleux. Vous voyez, moi, je crois que l'amour, à la fois, il faut y croire, parce que sinon la vie n'a pas beaucoup de sens. Et plus l'amour est grand, plus grande est la vie. Oui, ça, je le crois beaucoup. Mais en même temps, il faut savoir que c'est quelque chose qui ne dure pas. Voilà.
Oui, mais vous
ça fait partie, ce sont des roses. L'amour,
vous
ce sont des roses.
Vous semblez dire qu'il n'y a pratiquement jamais de lien entre amour et bonheur durable, mais il faut quand même chercher l'amour. Parce que ça nous apporte...
Bien sûr, moi... Non, mais... C'est une constatation.
Il semblerait, d'après vos livres, que vous ne concevez le bonheur que de façon tout à fait instantanée. Enfin, d'ailleurs, c'est très bien décrit dans ce roman. Il y a des moments de bonheur.
Voilà, des moments de bonheur.
Il y a un marabout en Finlande, là, égaré en Finlande, qui le dit, d'ailleurs.
Oui, mais...
Il dit, je vois le bonheur, le vrai, celui qui ne dure pas.
Oui,
c'est sa formule.
Non, je crois que la passion donne des fulgurances. Ce qui est peut-être différent de l'amour construit, de l'amour conjugal, qui sont des constructions. Qui sont des constructions beaucoup plus raisonnées, raisonnables. Là, je me place dans la configuration de la passion. Et il y a des êtres qui sont abonnés aux passions et des êtres qui sont abonnés à l'amour durable. Moi, je suis du côté de l'amour-passion parce que, peut-être parce que je suis romancier et que, à chaque fois, à travers l'amour, je vis un nouveau roman. Voilà, je viens de nouveau roman et ce qui me plaît, c'est ce risque, ce danger, cette inquiétude, ces souffrances qui sont inéluctables, qui font vivre, parce que je crois que ce sont des émotions et nous cherchons les émotions.
Donc vous faites vraiment un lien, vous, entre le véritable amoureux et le romancier. Enfin, c'est la même démarche, et la remise en cause de soi, en tout,
c'est très
pour
proche,
essayer d'aller à l'essentiel, quoi.
Et d'ailleurs, on aurait beaucoup de mal à trouver de grands romanciers qui n'aient pas été de grands amoureux. D'ailleurs, c'est vraiment assez rare. Il y a un lien. Au fond, alors, on pourrait dire, oui, Casanova, il a raconté ses amours, mais il n'a pas écrit le roman. Bon, parce que ce n'est pas un romancier. Mais autrement, toute histoire d'amour a derrière elle un certain nombre d'expériences amoureuses, que ce soit, bien sûr, chez Stendhal. Chez Stendhal, c'est frappant, parce que tout, finalement, Stendhal reconstruit dans l'imaginaire toutes les frustrations de la vie réelle.
Ce que vous semblez dire également, c'est que face à donc toutes ces incertitudes de l'amour, il y a un point d'ancrage dans nos vies. Et d'ailleurs, je crois que c'est dans votre troisième roman, c'était Avant-guerre, c'est l'amitié.
Bien sûr. Alors,
là, on est hors des luttes de pouvoir, on est hors de la politique, on est hors de l'amour, on est dans quelque chose de...
Vous savez, je crois qu'il y a autant de poison
dans
l'amitié que dans l'amour. Proust a une très
Pourquoi
belle...
Pourquoi vous en parlez de façon beaucoup plus...
Je crois que l'amitié aussi, ça demanderait d'autres développements. Proust disait, mes amis... Crois en l'amitié, mais n'en jouisse pas. Moi, je n'y crois pas, mais j'en jouis. Eh bien, et je crois que l'amitié, c'est aussi quelque chose de très complexe. Alors évidemment, il n'y a pas l'élément sexuel qui fait qu'on a une dimension qui n'est pas donc, de moins, mais il y a une charge affective très, très profonde dans l'amitié. Il y a d'ailleurs beaucoup de romans qui montrent que cette amitié se construit un peu sur le même modèle que l'amour. Il y a des amitiés aussi passionnées que les amitiés amoureuses.
Alors vous faites dire à votre héros, j'ai toujours vécu à côté de moi-même, oui, à côté de celui que j'aurais voulu être, ou plutôt en face, car ma relation avec ce double obscur est agressive, corrosive, désespérante. Je l'ai dit, je boite un pied dans la réalité, l'autre dans un rêve inaccessible. Est-ce que c'est un aveu personnel ?
Alors, disons, ça c'est un peu du futur antérieur, parce que j'ai mis mon personnage, le narrateur, dans la position de quelqu'un qui voudrait écrire et qui n'arrive pas à écrire. Ce qui a été...
Oui, mais qui parle merveilleusement d'écriture.
Enfin, oui, mais parce que
j'en parlais là, mais il en parle merveilleusement.
Oui, mais parce que ça a été mon cas pendant au moins 10 années de ma vie, entre 20 et 30 ans.
Vous étiez journaliste, c'est ça ?
J'étais journaliste parce que mes livres n'étaient pas publiés et mes livres étaient refusés par les éditeurs. Et donc, j'ai terriblement souffert. Et là, je me suis mis dans la peau de cet homme qui souffre. Parce que moi, j'ai eu finalement cette chance, à 30 ans, de pouvoir le publier et d'écrire un certain nombre de livres. Mais mon héros, mon personnage, est lui frustré. Il n'arrive pas à écrire, il n'arrive pas. Et c'est quelque chose de très douloureux. Et ça lui donne l'impression d'une frustration. Ça lui donne l'impression qu'il ne vit pas, qu'il est écarté de sa vraie vie. Voilà. Et c'est ces souffrances que j'ai éprouvées à ce moment-là que j'ai transmué dans ce personnage.
Oui, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous avez dépassé ce stade-là.
Non, non, parce que j'ai gardé un peu de mon âme d'auteur refusé. Je suis très proche, vous savez, de tous les ans, il y a 100 000 adolescents, jeunes gens, jeunes filles qui essaient de publier un livre et qui n'y arrivent pas. Eh bien, il y a une part de moi-même qui est de leur côté, vous voyez. Alors, j'ai beau avoir des prix littéraires, avoir eu un petit succès, bon, être à l'Académie... Mais j'ai une part de moi-même et je pense que cette âme collective, si vous voulez, de ceux qui n'en ont pas eu de succès, de ceux qui en ont eu, ils se rejoignent. Ils se rejoignent. Je ne veux pas parler de communion des saints, mais dans la communion des saints, il y a les âmes qui ont souffert, qui sont les âmes qui ont eu du bonheur et ils s'échangent. Je ne veux pas dire que le succès soit le bonheur, non, mais... Disons, il y a une sorte de transmission de l'un à l'autre.
Mais il faut dire que dans votre œuvre, vous avez une vision assez esthétique de l'échec. Hein. Je relevais dans tous vos romans le nombre de titres dans lesquels le mot échec apparaît ou un mot équivalent. Il y en a au moins une bonne dizaine. Et vous semblez dire que l'échec est une sorte d'art de vivre. Alors, je suis tombé par hasard sur un texte de Simon Leige l'autre jour. J'aimerais bien savoir si vous pourriez le reprendre à votre compte, ce texte, parce que j'en ai l'impression. Les gens qui réussissent sont ceux qui savent s'adapter à la réalité. En revanche, ceux qui persistent à vouloir élargir la réalité aux dimensions de leurs rêves échouent. Et c'est pourquoi tout progrès humain est dû, en définitive, aux gens qui échouent.
Oui, oui. Ça, je reprends tout à fait cette phrase.
Vous êtes d'accord avec lui ?
Et d'ailleurs, je connais un peu Simon Leige. Et il avait fait cette réflexion sur mes romans. Il m'avait dit un jour, il m'a écrit... Il m'a dit, il y a chez vous quelque chose d'étrange, ce sont des livres de romantique, mais de romantique avec de l'humour, ce qui est contradictoire. Ce qui est contradictoire. Et je trouve ça très fin comme jugement littéraire, parce que c'est vrai, je suis à la fois complètement dans le romantisme, c'est-à-dire dans la passion qui ne s'interroge pas sur elle-même, et en même temps, une distance par rapport à cette passion, distance un peu d'humour.
Oui, distance par rapport à vous-même. Alors, on vous associe très souvent, et d'ailleurs, vous avez cité leur nom tout à l'heure, on vous associe très souvent à Drieux de La Rochelle, à Paul Morand. Moi, je me demande s'il n'y a pas en vous une autre dimension essentielle qu'on sous-estime, celle qui vous rapprocherait fondamentalement d'un autre, qui est Bernanos. Je pense à une phrase que vous faites dire à votre narrateur, qui est quand même étonnante. « J'étais pauvre et honnête de surcroît, pauvre parce que honnête ou honnête parce que pauvre, point d'interrogation, presque tout le christianisme et le marxisme se résumaient dans cette question. » C'est du Bernanos tout craché, ça.
Oui, c'est vrai que du point de vue, disons, de la vision sociale, de la révolte, je serais très proche de Bernanos.
Et vous l'avez prouvé d'ailleurs plusieurs fois dans votre vie en posant des noms qui vous ont coûté cher.
Oui,
des noms sociaux et des noms politiques.
Oui, j'aime les combats, l'affaire Maradane. J'aime les combats, mais...
Même au début, au Figaro, les pétroliers, enfin tout ça.
Oui, c'est vrai que j'aime pas mal les combats. Mais je suis quelqu'un qui était pris de justice un peu, et de ce point de vue-là, je suis très proche de Bernanos. Néanmoins, ma problématique est beaucoup moins une problématique catholique comme celle de Bernanos. Et donc, je ne suis pas un écrivain, disons, où le religieux a cette importance. Je suis beaucoup plus laïque, je suis beaucoup plus séculier que Bernanos. Et mes personnages sont peut-être vaguement chrétiens, mais ils sont plus libertins et ils sont beaucoup plus dans la recherche de l'amour. D'ailleurs, je n'ai pas la vie de Bernanos, je ne suis pas un père de famille avec cet enfant. Donc, je suis plus proche, je crois, d'écrivain, je ne dirais pas de Paul Morand, parce qu'au fond, Paul Morand n'est pas du tout dans la passion. Paul Morand est dans l'analyse de la vie sexuelle, des perversions. Il a fait un très beau livre, et Kat et ses chiens, et est un très beau livre. Mais je suis plus proche, donc, du Proust, d'Albertine disparue, ou de Drieux de La Rochelle, de ces gens qui, au fond, tentent, à travers leurs romans, en même temps, de s'éclairer eux-mêmes et d'éclairer les autres. Et peut-être de leur livrer un aspect, qui est un aspect de la littérature qu'on mésestime, c'est l'aspect de thérapie. C'est-à-dire que moi, quand je souffre amoureusement, je vais lire un passage de La Prisonnière de Proust, et ça me fait du bien. Ça me fait du bien de voir que d'autres personnes ont souffert, comme j'ai souffert, ou bien je lis des poèmes d'Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. Et à ce moment-là, à travers cette souffrance qui a été éprouvée par Aragon, ou par... qui est très souvent désespéré, ou même la correspondance de Valérie, qui montre un homme tout à fait en plein désespoir d'amour, eh bien, ça fait du bien parce qu'on se dit, finalement, voilà, il a exprimé merveilleusement une souffrance, il n'a pas gâché sa souffrance. Parce que le pire, je crois, c'est le gâchis, c'est de se dire, cette souffrance ne sert à rien. Au moins, cette souffrance a donné de belles phrases. Et je crois que... si la vie ne servait qu'à cela, ça serait déjà pas mal.
C'est-à-dire que les mots sont presque plus importants que les choses ?
Oui, bien sûr. Bien sûr, je crois que c'est toute la vocation artistique. C'est de croire que pour un peintre, d'avoir réussi à saisir un moment de beauté, saisir dans l'amour qui ne dure pas, saisir, faire durer cet amour et lui donner un instant d'éternité, je crois que c'est ce fragile succès des écrivains.
Ainsi s'achève cette émission. Je rappelle le titre de ce dernier livre de Jean-Marie Rouard, donc publié chez Gallimard, La guerre amoureuse. Un roman, je le répète, sombre, profond et aux accents parfois racinien. Un texte que vous n'oublierez pas de sitôt. Jean-Marie Rouard, merci et merci à tous et à toutes d'être avec nous.
Merci.